la pollution, mais aussi de faire face à la raréfaction de cette ressource vitale.
Stéphanie Schuller, l'information continue sur RFI avec Mardi Politique. Très bonne fin de journée.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Tu as entre 18 et 40 ans? Tu veux agir sur ton territoire aux côtés d'autres citoyens motivés? Tu veux mener des projets sur des thématiques aussi variées que le handicap, l'écologie, la parentalité, le sport et bien d'autres? Bienvenue à la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région. Viens découvrir l'association le 12 février en plein cœur d'Angers.
Rejoins-nous pour mener des projets citoyens, monter en compétences et faire des rencontres. Pour participer à notre soirée découverte, inscris-toi dès maintenant sur jciangers.com ou sur nos réseaux sociaux. Passe à l'action, rendez-vous le 12 février pour découvrir la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Cette semaine, c'était semaine partenaire puisque lundi, on était avec le Shabada et ce soir, on se retrouve avec le Théâtre du Champ de Bataille, partenaire de l'émission. On va parler de l'événement radio de la Méduse qui arrive très prochainement. Ça sera le 22 février. Attention, date à bien retenir. Il y aura des spectacles, des activités en tout genre dont on pourra profiter. Et pour en parler, on sera avec Marie-Laure Pilar, Johanna Plancheneau, Emma Laude de l'équipe du Théâtre du Champ de Bataille. On sera aussi avec Anne-Claude Romary de la compagnie Nom d'un Bouc et Emma Jo Beauvalet de la compagnie Le Cœur Gros. Ce soir, on aura aussi Vélopédia et la brève d'actualité de Mathéo. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, ce matin, on a été faire un petit tour avec Camille au Hall Biltoki dans le cœur de Maine. Pour leur réouverture, on vous emmène en reportage.
Radio G, en direct des Halles Biltoki, où le magasin a rouvert ce mardi matin. Pour rappel, les Halles étaient fermées pendant 14 jours suite à un incendie criminel survenu dans la nuit du 20 janvier. Une réouverture bien accueillie par les habitués du lieu.
Je viens là depuis l'ouverture, donc c'est pas d'hier. Je viens d'Avrier en vélo, jusque là.
La fermeture a été compliquée à surmonter pour certains commerçants. Thierry Leclerc, producteur de fromage pour l'entreprise Thierry Fromage Père et Fils, nous explique.
Un chiffre énorme. Hein. Quand même, ça fait 10 jours, si je ne me trompe pas, que ça a fermé. Donc nous, ça fait quand même une sacrée perte d'exploitation. Hein. Donc moi, l'avantage que j'ai, comme on faisait les marchés, on n'a aucune perte de marchandises, puisqu'on a tout a été écoulé sur les marchés. Mais quand même, quoi, nous, c'est que financièrement que ça peut être dur. Quoi. Tous ceux qui faisaient que du traiteur, entre guillemets, je pense que pour eux, ça va être dur aussi. Hein.
Avant même son ouverture, les Halles Biltoki étaient déjà sujets à de nombreuses critiques. Et il faut dire que les interrogations fusent sur l'espace cœur de Maine. Commerçants comme clients ont chacun une version différente des faits.
Je trouvais ça un peu con, en parlant vulgairement, parce que nous, on n'y est pour rien dans cette histoire. Ça va être des histoires politiques, je pense. Hein. Comme par hasard, c'est le jour que la mairie gagne, je sais pas, contre les opposants aux Halles. 3-4 jours après, ça crame. Je ne dis pas que c'est eux, mais bon, hein, on peut penser à beaucoup de choses.
Et j'ai été un peu surpris, quoi, parce que je ne sais pas, mais pour quelle raison ils ont fait ça. Mais à mon avis, c'est une histoire de jalousie, quoi. C'était pas une raison pour mettre le feu comme ça.
Après un an et demi d'ouverture, les Halles sont déjà entrées dans le cœur de la vie des habitants d'Angers. Mais malgré toutes les polémiques, les Angevins affectionnent le lieu. François Rey, manager de transition des Halles, nous partage son ressenti.
Nous, on voit ça de l'intérieur comme étant un ensemble, bien évidemment, d'offres culinaires, enfin de commerçants aujourd'hui qui proposent à la fois à manger, à boire, ou même simplement des produits que vous pouvez emmener quand vous faites vos courses. Et puis, on est autre chose, en fait. On est aussi un symbole pour la ville, puisqu'on est un lieu de vie important pour les Angevins. Et donc, on est aussi, j'ai envie de dire, un lieu de rencontre, un lieu où, sans réfléchir, on se dit bon, on se retrouve au hall pour boire un café, pour discuter.
Mais j'aime bien venir là, parce que bon, là il y a un peu plus de monde, mais quand je viens, il n'y a personne. Donc on est au calme, on a la musique, c'est clair.
Bitoki réouvert, un avenir prometteur s'annonce pour les Halles en ce début d'année 2025.
Vous pouvez retrouver notre reportage sur le site internet de Radio G, radio-g.fr. Et avant d'accueillir nos invités, juste une petite information. On aura la compagnie des passeurs de l'impalpable qui va proposer son spectacle secret ce mardi 4 février à 20h au Folies Angevines. Et maintenant, on peut accueillir tout de suite nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors ce soir, du coup, on est avec toute l'équipe du Théâtre du Champ de Bataille. On est avec Marie-Laure Pilar, bonsoir. Hop, ah, mince, j'ai pas allumé les micros, bonsoir.
Bonsoir.
On est aussi avec Johanna et Emma qui font partie en service civique de l'équipe du Théâtre du Champ de Bataille, bonsoir.
Bonsoir.
Et on est avec Emma Jo Beauvalet de la compagnie Le Cœur Gros, bonsoir.
Bonsoir.
Et Anne-Claude, pardon, qui devrait arriver d'ici peu. Donc, on peut parler de l'événement, la radio de la Méduse, pardon. On en avait déjà un petit peu parlé dans une autre émission, mais pour rappeler à nos auditeurs un petit peu ce que c'est cet événement, peut-être nous rappeler, Johanna, par exemple, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est cet événement ?
Et bah, du coup, l'événement Radio de la Méduse, c'est un événement qui va avoir lieu la journée du samedi 22 février. Et c'est un événement qu'on organise autour de la fiction radiophonique, en complicité du coup avec Anne-Claude Romary, autour de son spectacle Job Story. Et donc, c'est une journée où il y aura un petit peu des activités, une visite sonore du théâtre, une exposition, et tout ça autour du son. Voilà.
Et justement, vous avez souhaité donc associer une exposition, comme tu le disais, à cet événement, c'est celle d'Hervé Roche. Qu'est-ce qui vous a amené à l'inclure dans ce projet Radio de la Méduse, peut-être Emma?
Alors déjà, on réfléchissait à plein de choses qu'on pouvait faire dans l'espace du théâtre, donc pour mettre en valeur la fiction radiophonique. Et comme le Théâtre du Champ de Bataille accueille un petit peu tout le temps des expositions de plasticiens, on s'est dit qu'avec l'exposition qu'il y avait à ce moment-là, qui était l'exposition d'Hervé Roche, dont pourra nous parler Marie-Laure, qui est spécialiste exposition juste après. On s'est dit qu'en plus, avec ses œuvres, ça s'y prêtait bien. Et donc, il y a un atelier écriture au TCB qui s'est prêté à l'exercice d'écrire des petits poèmes, des petits textes. On a aussi l'enregistrement de leurs réactions, tout simplement, sur les œuvres qu'ils ont pu voir au théâtre. Et donc, en fait, ça va être un moyen pour les spectateurs de venir profiter de l'exposition par les yeux et par les oreilles. Et aussi, pour les personnes qui pourraient pas profiter du sens de la vue, de profiter d'un art plastique d'une manière un peu différente, quoi.
Justement, Marie-Laure, donc il y a cet audio guide dont Emma parle, donc un audio guide poétique autour de cette exposition. Comment il a été conçu et qu'est-ce qu'il apporte en plus aux visiteurs?
Alors, il a été conçu. Il y a un atelier en fait qui a été mis en place, fiction radiophonique, création de l'audio guide. Que je dise pas de bêtises, ils ont commencé début décembre.
Ouais, c'est ça.
Début décembre, ils se retrouvaient le samedi matin et ils sont allés voir cette exposition qu'on a choisie dans le cadre d'une commission. On a une commission exposition qui gère un petit peu l'organisation des choses sur au Théâtre du Champ de Bataille, et on avait différentes propositions de plasticiens, d'artistes plasticiens, et on trouvait que l'œuvre d'Hervé Roche se prêtait bien au jeu de la fiction. Elle est à la fois abstraite et laisse place à un imaginaire. Voilà, quand on s'y penche, on voit des choses et on peut laisser aller notre imagination au gré de sa personnalité et de ses envies. Et donc l'atelier s'est réuni à visiter l'exposition, d'abord d'un point de vue global, et puis après, en fonction des envies et des attentes de chacun, ils se sont dirigés vers une œuvre qui leur parlait, soit par les couleurs, soit par le trait du dessin, des petits détails qui les ont fait imaginer une plus grosse
Et justement, donc, dans cet événement, il y aura aussi un espace participatif, donc avec les stages de fiction radio. Quel public vous visez et comment vous espérez qu'il s'approprie cet événement, justement, ces stages radio?
Alors, du coup, les stages radio, en fait, c'est des stages qu'on a organisés en amont de l'événement. Et le jour de l'événement, on aura des restitutions de ces stages. Et donc, du coup, on a trois stages différents. On a un stage qui est donc à destination des ados, qui aura lieu en février. D'ailleurs, il reste encore quelques places. Donc, si ça intéresse des auditeurs adolescents...
On peut peut-être leur rappeler où s'inscrire.
Directement sur le mail du Théâtre du Champ de Bataille. Donc, contact@champdebataille.net. Et on a aussi, du coup, un autre atelier à destination des adultes, qui est animé par Anne-Claude Romary, dont elle pourra nous parler un peu plus tout à l'heure, peut-être. Et donc, un autre atelier aussi en partenariat avec l'association Abri de la Providence, qui est une association angevine, donc qui est aussi animée. En fait, tous les ateliers sont animés par Anne-Claude Romary, et donc on aura donc le jour le 22 février une restitution de ces ateliers, à la fois sur le plateau directement jouant la fiction radiophonique jouant direct sur le plateau du théâtre, et aussi sur les bornes de podcast qu'on pourra retrouver dans le théâtre.
Marie-Laure, Radio de la Méduse, ça semble explorer à la fois le théâtre, le son, un peu l'immersion. Est-ce que c'est une direction que le Théâtre du Champ de Bataille veut prendre, de mélanger tous ses sens un petit peu?
Oui, c'est l'idée. Le Théâtre du Champ de Bataille est ouvert un peu à toute proposition artistique, culturelle, et on a envie que chaque spectateur puisse profiter avec ses sens qui lui sont propres. Appréhender les choses, que ce soit les spectacles, les œuvres plastiques, quand il vient au champ de bataille, voilà, il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre. On a envie vraiment de toucher chaque être humain dans son par la voix dont il est le plus sensible. Donc il y en a qui vont apprécier des choses très visuelles, très spectaculaires. Il y en a qui vont être sensibles à ce qu'ils entendent. Et voilà, c'est l'idée de se diversifier aussi. On propose des spectacles théâtre, il y a le cinéma, là, visuel. Du coup, là, on touche un peu tout ce qui est audio. Et c'est l'idée, ouais, de trouver des choses qui... comment expliquer
qui rassemble tout ça.
C'est ça, ouais.
Ok, très bien. Bah, vous restez avec nous justement pour continuer à en parler. On parlera des créations artistiques, des spectacles, de l'événement. Mais avant tout ça, on va faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute La vie moderne de Lucien.
Ton sourire dans la nuit, ta voiture qui avance plus. Chose dont je m'ennuie depuis qu'on se parle plus. C'est toujours comme on pensait, c'est toujours comme on pensait. Quand on cherche souvent on trouve. Faudrait parler, 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 parle comme on parlait. Faudrait parler, 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 parle comme on parle. J'ai décidé d'attendre ici, d'attendre le temps qu'il faut. J'attendrai sûrement toute la nuit un signal, un écho. Faudrait parler, faudrait parler, toujours parler. Toi m'entends-tu te demander sans faire semblant de se parler comme on le faisait avant. J'attends, j'attends. J'entends rien, courir après son ombre. Ton visage sous la pluie, à travers les décombres. Tu trouveras où je suis. Faudrait avoir encore du temps. Crois-tu pouvoir venir maintenant? Faudrait parler, 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 parle comme on parlait. Parler, 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 parle comme on parle. J'ai décidé d'attendre ici, d'attendre le temps qu'il faut. J'attends.
sûrement toute la nuit. Un signal, un écho. Faudrait parler, faudrait parler, toujours parler. Toi m'entends-tu te demander sans faire semblant de se parler comme on le faisait avant. J'attends, j'attends.
Écoutez La vie moderne de Lucien sur le 101.5 FM et on est toujours avec nos invités de ce soir, Marie-Laure Pilar, Johanna Plancheneau et Malo de l'équipe du Théâtre du Champ de Bataille. On est aussi avec Anne-Claude Romary de la compagnie Nom d'un Bouc qui a aussi mis en scène Job Story. Anne-Claude, vous pouvez vous emparer du micro jaune juste là. Bonsoir, on vous a pas entendu tout à l'heure.
Bonsoir, oui.
Et on est aussi avec Emma Jo Beauvalet, comme tout à l'heure. Donc Anne-Claude, vous vous mettez en scène et vous jouez dans Job Story, qui sera présenté le 22 février. C'est quoi la genèse de ce spectacle ? De quoi parle-t-il ? Si vous pouvez nous expliquer en quelques mots pour nos auditeurs.
Alors en quelques mots, il y a quelques années de ça, j'ai eu envie de sortir des tiroirs un début de fiction radio que j'avais commencé à écrire et pas terminé. Qui s'appelle toujours Job Story. Et à cette époque-là, j'avais la possibilité de travailler. J'avais envie de créer un spectacle sur une toux cabanée, parce que je connais quelqu'un qui a une toux cabanée, qui vit dedans. Et en rencontrant les personnes que j'ai ensuite à qui j'ai proposé de venir travailler sur le projet, je leur ai proposé, du coup, de créer la fiction radiophonique de manière à ce qu'elle soit jouée sur la toux cabanée. Que nous, on joue à l'intérieur de la toux, dans la cabine, et que le public soit à l'extérieur, et qu'on aille jouer sur la Loire, en fait. Et voilà, et qu'ils puissent entendre la fiction, et qu'ils puissent nous voir jouer la fiction en direct, s'ils le souhaitent, ou qu'ils regardent le paysage de la Loire, s'ils préfèrent regarder. Donc ça, c'est la radio de la Méduse, du coup. Parce que c'est sur un bateau aussi, et que...
Et c'est pour ça qu'ils s'intègrent bien dans ce projet, finalement, c'est...
En fait, le projet au champ de bataille est parti de Job Story, justement, parce que on n'avait plus de possibilité de jouer sur la toux, et moi j'avais pas envie que le spectacle s'arrête. Donc j'ai proposé au champ de bataille, à Florent, je lui ai demandé s'il avait envie de tester, de voir si ce spectacle qui est fait pour être joué sur l'eau, il pouvait fonctionner sur une scène aussi, en direct. Et il a été partant, et de fil en aiguille, le champ de bataille, toute l'équipe s'est emparée de ce projet et a décidé de mettre en place la radio de la Méduse, l'événement autour de la fiction radiophonique, qui englobe Job Story, mais pas seulement.
Et donc en parallèle aussi, vous animez trois stages de fiction radio autour de la guerre des zonzondes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ces stages ils sont construits et comment les participants ils vont s'immerger dans cet univers ?
Alors la guerre des zonzondes, c'est le nom de la fiction radiophonique que j'ai écrit spécifiquement pour les trois groupes d'amateurs. Ils sont 10 à peu près dans chaque groupe. Et l'idée, c'était de proposer trois parties différentes, trois actes qui soient joués par chacun des groupes. Et à la fin, quand les trois actes sont mis ensemble, quand j'ai fait le montage, en gros, des trois parties, on a la fiction radiophonique qui s'intitule « La guerre des ondes », qui est une référence à « La guerre des mondes » d'Orson Welles, qui est la fiction radiophonique historique, on va dire, un peu culte en fait, même complètement culte. Et j'avais envie de faire un clin d'œil à la guerre des mondes, d'où la guerre des ondes qui s'inspire de l'histoire en fait.
Imajo, vous êtes l'autrice et la voix de Abracadabra, une déambulation sonore. Quel est le principe de cette création? Comment tu l'as imaginée?
L'équipe du champ de bataille a fait appel à moi pour l'événement la radio de la Méduse pour écrire un texte. Ils m'ont demandé que ça soit un genre de déambulation sonore, pardon, de visite du théâtre. À part ça, j'avais pas vraiment d'indication, j'avais plutôt champ libre, quoi. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant, comme c'était un événement sur la fiction sonore, la fiction radiophonique, de partir d'une réflexion sur la voix, vraiment. Et j'ai imaginé cette histoire donc d'une sorcière qui s'appelle Octavie, qui, au moment où, en gros, elle a senti que son heure arrivait et qu'elle allait bientôt cramer sur un bûcher, a décidé d'ensorceler sa voix dans un grimoire pour qu'on ne puisse jamais la faire taire et que sa voix perdure pour toujours. Et ça marche, son grimoire reste intact des siècles durant, mais un jour, il est retrouvé par l'équipe du théâtre du champ de bataille. Octavie a un message à faire passer. En fait, sa voix s'éteint. Elle est en train de perdre sa voix parce que quelqu'un a déchiré des pages de son grimoire et les a cachées dans le théâtre. Donc, faut les retrouver vite avant que sa voix disparaisse à tout jamais. Et en même temps qu'elle va retrouver donc les pages grâce aux personnes faisant la visite, elle va, se rappeler de tout un tas de souvenirs, de choses qui lui sont arrivées dans sa vie de sorcière incarnée, on va dire. Et voilà, c'est un prétexte pour raconter cette histoire, pour parler de la voix des femmes, comment on a toujours voulu les silencier et comment ça n'a jamais marché, en fait. et puis en même temps, pour faire une visite du théâtre, des coins un peu secrets. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Abracadablabla. Voilà, petit jeu de mots, quoi.
C'est vrai que je l'ai mal prononcé tout à l'heure. C'était pas abracadabra, c'était abracadabra blabla. Et du coup, quelles émotions et sensations vous souhaitiez faire vivre chez les participants? Quelles émotions vous souhaitiez susciter?
C'était un peu délicat parce que quand j'ai choisi de parler de ça, voilà, donc des sorcières qu'on a fait brûler, tout ça, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler de la voix des femmes. Bon, a priori, c'était pas hyper ledge, quoi, comme sujet. Sauf que l'idée, c'était quand même que la visite reste un moment agréable en famille, divertissant, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je veux que ça passe par l'humour, sans que ça atténue le propos. Je suis vraiment passée par ça, et ce qui fait que Octavie, son leitmotiv, sa raison de vivre, c'est vraiment de parler. Donc, elle parle, et puis elle fait des blagues tout le temps, et donc j'espère en tout cas que l'émotion transmise, enfin, ou du moins ce que ça provoquera, ce sera le rire des gens, et que par là aussi s'invite l'émotion, plus de sensibilité, parce qu'elle va dévoiler des choses plus intimes de son histoire. Voilà.
Marie-Laure, tout à l'heure on parlait de la diversité des formats de cet événement. Comment on fait, comment ces différentes créations elles cohabitent au sein du même espace, dans le théâtre du champ de bataille? Comment on fait pour tout articuler ensemble?
Alors, on a le théâtre est disposé de telle... On a notre salle de spectacle, une petite jauge, 90 places pour ceux qui connaissent. Récemment, on a investi dans un rétroprojecteur et un écran de cinéma. Donc, dans la salle de spectacle, on peut proposer différents formats de choses à voir et à entendre. On a une salle d'exposition, voilà, où on peut jouer, on peut accrocher des choses. C'est là que nos ateliers répètent. Et ça s'articule très bien. Après, on est aidé aussi par une équipe de bénévoles. Là, on est là, l'équipe du champ de bataille et les intervenants, mais il y a aussi toute une équipe de bénévoles qui nous aide à justement à articuler les choses, à faire du lien entre l'équipe salariée, entre les ateliers, les spectacles qu'on propose. Et tout ça fait que c'est fluide et qu'on peut passer d'un élément à un autre. Par exemple, nous, les spectateurs, quand on les reçoit, on leur propose des choses visuelles à l'exposition en attendant que le spectacle commence, des choses sonores aussi parfois. Voilà, on veut qu'ils en aient pour leurs yeux.
Plein les yeux.
C'est ça, plein les yeux et plein les oreilles. On veut que, voilà, ils soient...
Eh ben, c'est ce qu'on leur souhaite. On va continuer tout à l'heure avec vous pour parler dans quelques instants, toujours de Radio de la Méduse. Dans quelques instants, on aura la brève d'actualité de Mathéo. Mais juste avant tout ça, on part faire un peu de vélo avec Nico et sa chronique Vélopédia.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Salut les cyclistes, on continue les chroniques à la rencontre de ceux et celles qui font le vélo-taf angevin. J'ai rencontré Benoît qui habite en bord de Loire, tout au bout du bout à l'est dans l'agglomération angevine. Et vous allez voir, Benoît est un vrai de vrai. Il prend le train et le vélo. Il utilise même le parking collectif vélo de la gare d'Angers, un service payant qui vous permet de laisser votre vélo en toute sécurité et de prendre le train sans stress.
Alors moi, tous les jours, je prends le train à Saint-Mathurin-sur-Loire. Je prends le 7h20 en général. Et puis, je vais jusqu'à la gare d'Angers. Je prends mon vélo qui est dans le parking vélo. Et puis après, je me rends à mon travail qui est à Belleveille. Le matin, quand j'arrive à la gare, ben je vais le chercher. Moi, ça m'évite de prendre mon vélo dans le train. Je trouve ça plus pratique. Et puis, ben, je sais que mon vélo est en sécurité.
La SNCF et le train proposent beaucoup de services pour les cyclistes. Pourquoi toi, tu préfères le laisser là-bas et non pas le transporter et le garder avec toi?
Et parce qu'il y a beaucoup de monde dans le train que je prends. Donc, alors c'est vrai que c'est possible et parfois je le fais pour ramener mon vélo pour faire son entretien. Mais c'est quand même dans le train que je prends le 7h20 et puis même le soir aussi, bah, y a beaucoup de monde, donc c'est pas très facile de prendre le vélo et puis même à la sortie de la gare dans les couloirs.
Benoît, altruiste, voit surtout le côté pratique et nous explique pourquoi il se déplace à vélo de si loin puisque plus de 30 km séparent son domicile de son travail.
Ah voilà, c'est une motivation écologique très clairement. J'ai habité en Alsace où j'ai habité Strasbourg. C'est la ville, en France, la plus avancée sur le vélo avec des pistes cyclables très sécurisées. Donc moi j'ai adopté ce mode de transport là-bas. Quand on est revenu dans l'Ouest, c'était évident qu'on prendrait une habitation sur une ligne de train pour combiner train et vélo. Donc tout ça c'était calculé en fait. Bah, il y a effectivement la motivation écologique, économique. Très clairement, c'est beaucoup moins cher que la voiture, hein. C'est sans commune mesure. Sachant en plus que l'employeur prend en charge la moitié de l'abonnement de train. Et puis en plus au niveau santé, ça n'a rien à voir, quoi. J'ai un travail statique. Et donc moi c'est important pour moi d'avoir une activité physique. D'un point de vue médical, on sait que les gens qui ont une activité physique régulière sont moins malades que ceux qui sont trop sédentaires.
Encore une fois, c'est pas moi qui vous le dis, mais le vélo, c'est bon pour la santé et le portefeuille. Alors si Benoît avait un conseil à vous donner, le voici.
Tout simplement bien s'habiller. Moi je trouve pas que l'hiver soit la pire saison pour faire du vélo. Il faut bien s'habiller, il faut avoir une tenue adaptée, voilà, et puis ça le fait, quoi.
Ça paraît si simple avec Benoît. Voilà, je pense à tous mes amis cyclistes qui bravent la pluie et le froid en ce moment. L'hiver est là, qui montre les crocs. Alors je vous salue, ciao.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon, avec Nico dans Topette.
Vélopédia que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Nous, on retourne tout de suite avec notre sujet du soir, le théâtre du champ de bataille. Et on peut un petit peu parler de ce qui va se passer après Radio de la Méduse, Marie-Laure, parce que le théâtre du champ de bataille va accueillir Alter par la compagnie L'Air de Rien et Je m'appelle Bachir Lazare par la compagnie Les Deux Apaches. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire un peu plus sur ces spectacles?
Oui, alors donc en ce moment, depuis une semaine et demie, du coup, on reçoit la compagnie L'Air de Rien, qui travaille sur son spectacle Alter, donc c'est une création. Donc Alter, pour pitcher un petit peu le truc, il y a deux personnages, Alpha et Beta, qui vivent chacun dans leur monde. Qui ont leur petite routine, leurs petites habitudes et qui dérogent pas justement à ces routines, ces habitudes. Ils sont bien dans un fonctionnement répétitif et habituel. Ils sont sur un plateau qui tourne, séparé par une cloison. Donc on voit à un moment Alpha, à un autre moment Beta, et ça tourne un peu comme une horloge. Et un jour, cette horloge va y avoir un peu comme si elle était rouillée, elle va mal fonctionner. Et c'est là que Alpha et Beta vont devoir faire face à l'imprévu, à l'autre, Et ils vont devoir un peu ouvrir leurs horizons, apprendre à découvrir l'autre, les autres. Et voilà, cette pièce est un peu une réflexion sur l'autre vécu un peu comme un danger, comme une angoisse, mais aussi et surtout l'autre, ce qu'il m'apporte et en quoi il me permet d'avancer et de devenir finalement un homme meilleur. D'ailleurs, il y a un petit sous-titre à la pièce, donc c'est « Alter et si l'autre m'altérait ». Et donc, c'est vraiment la découverte de l'autre, la diversité, comment elle nous enrichit et comment on devient meilleur avec.
Oui, c'est des spectacles qui abordent des thématiques très fortes. C'est quoi les émotions qu'on veut procurer chez le spectateur? C'est de la joie, de la réflexion profonde?
L'idée, je veux juste rappeler avant que j'oublie que donc Alter, c'est les mercredis 5, jeudi 6 et 7 février, donc c'est cette semaine. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.champdebataille.net.
Parfait, on rappellera tout ça en fin d'émission. Excusez-moi. Aussi en plus.
Oui, oui, d'accord.
Pour prendre toutes les notes.
Oui, pour les émotions, l'idée c'est que quand on rentre dans la salle de spectacle et qu'on voit ce spectacle, on en sort un peu différent. On a vu des choses, on y a réagi avec nos sentiments, nos émotions, et ça nous apporte pour continuer à avancer dans une voie plus qu'on définirait comme plus propre à chacun. Et voilà, l'idée c'est de voilà que ça nous nourrit, voilà, et comme toute nourriture, voilà, nous aide à avancer spirituellement et physiquement, du coup. Ouais.
Est-ce qu'il y aura d'autres temps forts que vous attendez avec impatience au Théâtre du Champ de Bataille bientôt?
Oui.
Dans les mois à venir?
Oui, tout à fait, oui. Donc là, je vous parlais d'Alter, qui est une création. On va recevoir fin mars un spectacle qui s'appelle « Je m'appelle Bachir Lazare ». Alors, c'est la compagnie des deux Apaches. Et c'est un spectacle qui tourne depuis une dizaine d'années. C'est un texte d'Evelyne de la Chenelière. La mise en scène est de Thomas Coste. Et Thomas Drelon incarne Bachir Lazare depuis une dizaine d'années maintenant. Il avait commencé dans la région angevine à tourner ce spectacle. Et il a eu envie de revenir ici pour achever les 10 ans de la tournée. Donc c'est l'histoire extraordinaire un peu de cet homme ordinaire qui s'appelle Bachir Lazare, immigré algérien qui arrive dans une école un peu de façon... En fait, on l'appelle comme pour remplacer dans une classe de CM2 une enseignante qui s'est suicidée. Et il apprend un peu, du coup, il arrive sur le tas. Donc il arrive dans cette classe à la suite d'une tragédie, lui qui porte ses propres blessures et angoisses, et il va au milieu de cette classe, apprendre à contrôler un petit peu tout ça, à avancer, à trouver sa place, lui qui a vécu de par son passé, des choses angoissantes, terribles. On va apprendre à découvrir peu à peu ce personnage, son passé, ses angoisses. Et il retrouve dans sa classe un petit peu une insouciance qu'il avait peut-être perdue. C'est touchant, c'est poétique. Et une mise en scène plutôt minimaliste. On va à l'essentiel du sentiment et de la poésie.
Eh ben parfait, on a pris note, on réserve les dates du coup pour aller voir. Vous restez avec nous, on va rappeler toutes les infos pratiques en fin d'émission, où est-ce qu'on réserve les dates, tout ça. Dans quelques instants, on aura la brève d'actu de Mathéo. Mais avant tout ça, on fait une petite pause musicale. On écoute Mess Up de CG Bed.
See that you love me. I've always had trouble loving myself. But could you love me? It's hard to feel safe.
I know it's over, but I suffered so much. I don't want it to happen again. I know you're not like them. I'm in messed up state of mind. Still have some scars from the past. But my wounds still waiting on my side. I need you to show me how much you care. I'm sorry for that. I'm in messed up state of mind. Still have some scars from the past. But my wounds still waiting on my side. I need you to show me how much you care. I'm sorry for that. Gaze in mind, your body close to me. I've cried on many times, cause I couldn't see that you loved me. I've always had trouble loving myself. But could you love me? It's hard to feel the same. Your gaze in mind, your body close to me. I've cried on many times, cause I couldn't see that you loved me. I've always had trouble loving myself, but could you love me? It's hard to feel the same.
De CJ Bell sur le 100.5 FM de Radio G. On écoute tout de suite la brève d'actualité de Mathéo.
Cette année-là a été culturellement riche pour la France. À l'heure où Jean-Luc Godard sortait Pierrot le Fou, à l'heure où Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature ou que l'ORTF crée la première deuxième chaîne de télévision, un discours, un appel fera date. Le 6 décembre 1965, les Français sont bien installés devant leur télévision sur laquelle un acteur fait irruption. Révélé 11 ans plus tôt dans Touchez pas au Grisby aux côtés de Jean Gabin, puis propulsé 2 ans plus tôt par son rôle de Fernand Naudin dans Les Tontons Flingueur aux côtés de Bernard Blier et Francis Blanche, une réalisation signée Georges Lautner avec quelques scènes mythiques pour un film qui l'est tout autant.
Jean !
Qu'est-ce que vous voulez ?
Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch !
Mettre un peu l'as de l'humide et jus de fruits, allez !
Pas jus de fruits, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les
faire ! Alors, allons-y !
L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout.
Fais quand l'acheter. Fais que ça. Touche pas au Grisby, salope.
De l'alcool à cet âge-là.
Des scènes cultes, Lino Ventura en jouera encore beaucoup dans sa grande carrière, mais revenons à cette date du 6 décembre 1965. La comédie n'est pas de sortie aujourd'hui, sa présence porte sur un sujet plus lourd. Costume sombre, chemise, cravate, la sobriété de la mise en scène de cette prise de parole souligne une gravité sous-jacente et Lino se lance.
Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant, pas comme les autres. Il y a plusieurs problèmes. Bien sûr, il y a d'abord le fait qu'il faut sauver ses enfants. Il y a aussi le problème de la détresse des parents. Et il y a aussi un troisième problème, qui est le suivant. C'est qu'avant, ces enfants s'éliminaient d'eux-mêmes. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et il y a aussi donc ce problème majeur qui habite les nuits sans sommeil de tous les parents, qui est le suivant. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils ?
Le message est grave, sincère, fort. Des milliers de téléspectateurs sont touchés. Une prise de conscience collective prend place autour d'un sujet encore tabou pour l'époque. Lino Ventura se pose comme quelqu'un de concerné et il l'est. C'est en ce jour que toute la presse l'apprend. Sa fille Linda est, comme son père la définissait, une enfant pas comme les autres. Cette cause va devenir la plus importante de la vie de Lino Ventura avec cette déclaration, toujours dans le même discours qui bouleversera l'accompagnement des personnes handicapées en France.
Ses parents, vous pouvez les aider. Vous pouvez les aider de plusieurs façons. Tout d'abord, je crois que vous pouvez les aider avec beaucoup de chaleur humaine. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Il ne faut pas le regarder avec de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice, c'est de la chaleur humaine. Vous pouvez les aider également en nous apportant de l'argent. Bien sûr, si je suis là, c'est pour ça. Parce que je sais que c'est avec quelque chose de concret et de palpable qu'on pourra arriver à nos fins. C'est-à-dire qu'avec cet argent, je voudrais construire un centre pilote. Un centre où on puisse prendre des enfants, les rééduquer, essayer à un âge avancé de leur... d'essayer de leur faire faire quelque chose de leurs mains, des ateliers. Essayer qu'ils puissent se réintégrer dans la société quand nous ne serons plus là. Pour que je réussisse. Voilà. Merci.
Une campagne de dons massive se met en place. En quelques mois, 2 millions de francs sont récoltés. Avec les moyens de l'époque, récolter autant est une vraie prouesse. De grandes personnalités du cinéma lui apportent son soutien, comme Jean Gabin et Jeanne Moreau. Ces dons sont une réussite et la fondation Personnage est créée en 1966. Aide aux personnes et sensibilisation sont ancrées dans le quotidien des bénévoles de l'association. Et ce, jusqu'en 1981, date à partir de laquelle l'association est reconnue d'utilité publique, une légitimation supplémentaire qui va alors élargir le spectre de leurs actions. Les premiers centres d'accueil et de prise en charge vont ouvrir. Ce n'est qu'une question de temps avant l'apparition des maisons personnages, non sans difficulté. Un problème d'époque. 16 octobre 1979, Antenne de Midi, Lino Ventura.
Alors en deux mots, voilà de quoi il s'agit. J'ai effectivement acheté un terrain à Sèvres qui convenait parfaitement à l'implantation d'un centre pour ses enfants, comprenant 20-25 chambres et des ateliers où ils pourront travailler, c'est-à-dire un foyer à vie, n'est-ce pas ? Bien sûr, tout ça encadré par des éducateurs comme il se doit.
Or, bon, ce n'est pas le premier foyer que vous avez en France.
Justement.
Est-ce que c'est la première fois que vous avez des problèmes semblables ?
Non, j'ai déjà eu des problèmes semblables, mais enfin pas à ce niveau. Alors bien entendu, je suis ici pour éclaircir tout à fait les choses. Avant de faire le moindre geste dans ce sens, je suis allé voir la mairie de Serres et le maire notamment, qui bien sûr a accueilli favorablement mon projet. C'est la moindre des choses. Or, dans ce domaine, il y a une chose qui est encore beaucoup plus grave que ça, c'est qu'on a même utilisé la diffamation et on a accusé le maire de Serres de toucher des pots de vin de ma part pour se faire construire une somptueuse villa, vous voyez, où on en arrive avec des enfants. Vous voyez, c'est dramatique. Je me demande qu'est-ce qui va se passer demain si quelqu'un a besoin d'un secours ou d'un verre d'eau dans la rue. Je veux dire, je ne sais plus, moi.
Le centre ouvrira ses portes en 1982, se positionnant comme le premier établissement de l'association Personnage, preuve que l'effort paye toujours, une marche significative est franchie. Des centres fleuriront partout en France, dont un dans le Maine-et-Loire à Barassé. Ce petit village qui en apparence n'en a pas l'air, mais a été un lieu important de la vie de Lino Ventura, et il a su rendre à ses habitants, tout en consommant la chaleur humaine qui se dégageait du lieu. En 1942, alors qu'il déserte l'armée italienne, c'est à Barassé qu'il trouve refuge. L'asile lui a été offert, et en 1962, il décide de revenir dans ce petit village, d'acheter une maison loin de l'agitation et de la pollution parisienne. Son épouse Odette décédera d'ailleurs à Barassé en 2013. Il était donc plutôt logique de voir une maison personnelle se construire à Barassé, chose faite en 1995. Linda, sa fille, y résidait depuis quelques années maintenant, victime d'un accident de transfusion sanguine à sa naissance. Elle est à l'origine du combat de l'acteur et de la fondation Personnage qui accueille aujourd'hui plus de 1100 personnes en situation de handicap dans 38 établissements. Le mardi 28 janvier dernier, Linda est décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans, inspiration d'un combat qui dure toujours, qui grandit et accueille de nouvelles propositions. Le 30 janvier dernier, par exemple, en association avec Personnage, le comédien Artus a annoncé le lancement de la fondation Un Petit Truc en Plus après le succès du film, afin, je cite, d'offrir du rêve en créant des maisons de vacances pour les personnes handicapées. Une nouvelle preuve que les 66 années que Linda a passées sur Terre ont eu un impact fabuleux sur la vie de milliers de personnes.
Et c'est déjà la fin pour Topette. Ce soir, on parlait de l'événement de la radio de la Méduse. Je vais y arriver. La date à retenir, il me semble, c'est le 22 février. Emma, Johanna, si on peut rappeler un mot sur Radio de la Méduse et qu'est-ce qu'il faut retenir, Emma, Johanna, je ne sais pas qui veut se lancer.
Ouais, je vais y aller. Non, ce qu'il faut retenir avant tout, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit avant, c'est que là, il va y avoir en effet plein de choses pour les yeux, pour les oreilles, plein d'activités un petit peu partout dans le théâtre. Et ça va être ça tout l'après-midi. C'est avant tout un temps plutôt festif en fait. Hein. C'est le spectacle Job Story est super drôle, super décalé. La fiction sonore aussi. La guerre des ondes, pareil. J'ai pu faire quelques stages avec notamment Abri de la Providence et on se marre vraiment bien quand on enregistre quoi. Donc ce qu'on espère c'est que vraiment ce soit une journée où les spectateurs vont pouvoir se marrer avec nous et découvrir. Découvrir certes la fiction radiophonique, mais que ce soit surtout un moment agréable, convivial, où on se marre bien, quoi.
Johanna, si on veut réserver pour des activités ou retrouver toutes les informations pratiques, où est-ce qu'on fait ça? Sur le site internet, il y a un numéro peut-être?
Tout à fait, donc on peut retrouver toutes nos informations sur champdebataille.net et aussi par téléphone sur le numéro du théâtre du Champ de Bataille au 02 41 72 00 94 et aussi sur notre compte Instagram.
Parfait, c'est noté. On était aussi ce soir avec Emma Jo Beauvalet de la compagnie Le Cœur Gros. Tu es aussi autrice et la voix de la déambulation sonore donc dans le radio de La Méduse. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un petit mot peut-être sur ta compagnie, des actualités te concernant, des dates à venir?
Ouais, merci beaucoup. Et ben avec ma compagnie Le Cœur Gros, on est en train de créer un spectacle qui s'appelle Conte de Feu ou La Colère du Petit Chaperon Rouge. Que j'ai écrit, je joue aussi dedans et je le mets en scène avec, je joue dedans aux côtés de Ludovic Bou et Damien Le Délésir. À la régie, c'est Angélique Guillot. À la création sonore et musicale, c'est Romain Mulochaud. Et la création touche à sa fin. En fait, là, on a une date de première en juin, en milieu scolaire. On a très hâte. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui traite de violences sexistes et sexuelles, qui aborde la question assez frontalement. C'est à partir de 12 ou 13 ans. Selon la capacité que les élèves peuvent avoir à aborder ces sujets. Il y a des établissements où c'est à partir de la 5e, d'autres où c'est plus tard, bref. Et on est très heureux que la création touche à sa fin. On a très hâte de pouvoir la présenter au public et voilà.
Et bah parfait, c'est noté. Anne-Claude, vous faites partie de la compagnie Nom d'un Bouc. Est-ce que il y a des actualités vous concernant peut-être des pièces qui arrivent prochainement, des choses comme ça?
Eh bien, il y a la guerre des ondes. En l'occurrence, c'est le projet sur lequel je travaille depuis le mois de septembre. Donc, en ce qui me concerne, il y a ça. Pour le reste des actualités de la compagnie, il n'y a pas d'autres créations prévues en cours. Il y a des spectacles qui tournent, mais dans lesquels je suis pas. Donc, je pourrais pas vous donner les dates. Je sais qu'il y a un spectacle déambulatoire autour des rivières qui s'appelle Quand les rivières auront des dents, qui a été créé il y a quelques mois et qui a une tournée qui est prévue dans les mois qui viennent. Ou, je ne sais pas, quelque part au bord de l'eau. Ça, c'est sûr et certain, mais où ça?
Eh bien, parfait, on note les dates. Et vous, Marie-Laure, du coup, concernant les autres spectacles qui arrivent, hormis le Radio de la Méduse, quelles sont les dates à retenir?
Les dates à retenir, on peut, comme je vous le disais, on se familiarise avec le cinéma aussi également. On a eu un ciné-famille le 26 janvier et le prochain sera le 24 mars. 23 mars, excusez-moi, c'est un dimanche, sur le thème de l'air. Donc le matin, à partir de 10-11 heures, il y a des animations suivies des petits courts-métrages à destination des 3 ans et plus. Et l'après-midi, c'est un long-métrage, là-haut, je crois, Voilà. Et la journée est ponctuée d'animation. L'idée, c'est de passer un dimanche convivial ensemble, en famille, pour petits et grands.
Eh bien, parfait, c'est noté. On vous donne rendez-vous donc le 22 février surtout. Et nous, mercredi, on sera avec la ville d'Angers pour parler du CLEA, le contrat local d'éducation artistique. On sera aussi avec la chanteuse d'or. Jeudi, on sera avec l'association Laser pour parler d'une soirée.
Radio G! C'est tout.